7h, 9h, la matinale de Radio Classique avec David Abiker.
Virginie Fulpin pour le journal de ce 30 novembre 2023, ça va ?
Bonjour David, bonjour à tous. Good cop ou bad cop, on verra, mais la COP 28 s'ouvre aujourd'hui à Dubaï. La trêve entre Israël et le Hamas prolongée in extremis ce matin, une prolongation de 24 heures et l'espoir de voir de nouveaux otages libérés. Et puis la France, médaille d'or des Jeux Olympiques à Paris en 2024 et dans les Alpes en 2030.
Et puis après ce journal, 15 minutes d'actualité économique, l'éditorial d'Étienne Lefebvre avec les Échos. La SNCF coûte de plus en plus cher aux contribuables, suivi de l'essentiel de l'économie par François Geffrier qui recevra un peu avant 7h15 le directeur du Centre de géopolitique de l'énergie et des matières premières. 197 pays au chevet du climat, la COP 28 s'ouvre aujourd'hui à Dubaï.
Et trouver la sortie des énergies fossiles chez un producteur de pétrole, la COP 28 tente de résoudre la quadrature du cercle, mais on attend des avancées. Un accord pourrait être signé dès aujourd'hui, c'est une information Radio Classique, un accord qui prévoit la création officielle d'un fonds d'indemnisation des pays les plus touchés par l'accélération du réchauffement climatique. Ce fonds pourrait voir le jour sous l'égide de la Banque mondiale, mais il y a des points à préciser. Qui contribue? Qui est bénéficiaire? Lola Valero est directrice du programme Climat à l'IDRI.
Le compromis actuel dit que les pays les plus encouragés à contribuer sont les pays riches. Néanmoins, les autres sont invités à le faire et on a aussi laissé la porte ouverte à d'autres sources de financement, par exemple des fondations philanthropiques et toute autre source sur laquelle on arriverait à se mettre d'accord par la suite. Sur la question de qui reçoit les fonds, la seule condition qui a été posée, c'est de garder au moins une partie de ces fonds pour les pays les moins avancés et les petites îles en voie de développement. Néanmoins, ça n'exclut pas que l'ensemble des pays en développement y ait accès, mais c'est vraiment aux futurs membres du directoire de ce fonds de statuer là-dessus.
Des propos recueillis par Lucie Dupressoir. Une grande voix de l'Amérique s'éteint. Henry Kissinger est mort. Il avait 100 ans. Le diplomate incontournable de la deuxième moitié du XXe siècle avait gardé l'oreille des présidents des États-Unis jusqu'au bout. Kissinger avait obtenu le prix Nobel de la paix après la fin de la guerre du Vietnam. Un prix très controversé comme son personnage. La trêve entre Israël et le Hamas prolongée de 24 heures. Les médiateurs continuent de travailler pour que davantage d'otages soient libérés. Israël a d'ailleurs reçu une nouvelle liste. Hier soir, 16 d'entre eux ont recouvré la liberté. Mais le Hamas a aussi annoncé la mort de 3 otages, une mère et ses 2 enfants de 4 ans et 10 mois. La milice palestinienne affirme qu'ils ont été tués dans des bombardements israéliens. Ça illustre l'incertitude totale sur le sort des otages encore aux mains du Hamas, Marc Tédé.
Selon le décompte régulier du Hamas, plus de 65 otages enlevés dans le sud d'Israël ont été tués dans des bombardements de l'État hébreu sur la bande de Gaza. Chiffre certes vraisemblable, mais impossible à vérifier, dit l'ancien officier français et écrivain Guillaume Ancel.
Le Hamas ne sait pas toujours quels sont les otages qui sont réellement encore en vie, surtout si toute la cellule dans laquelle ils avaient été enfermés était détruite, c'est-à-dire y compris les miliciens du Hamas qui étaient censés les garder. Parce que normalement, les otages, on les garde jamais dans des groupes importants, c'est beaucoup trop risqué. Ce sont vraisemblablement des groupes de 5 à 7 otages dispersés au départ sur 40 sites différents.
Voilà qui complique les négociations conduites par le Hamas, d'autant que la milice est mal structurée et que d'autres groupes armés comme le djihad islamique détiennent des otages, explique le chercheur Étienne Digna, auteur de La rançon de la terreur, gouverner le marché des otages.
Toute la difficulté pour le Hamas consiste à négocier avec ces groupes pour les convaincre de libérer leurs otages, quitte à marchander avec eux. Le Hamas n'est pas le seul décisionnaire, il doit prendre en compte les intérêts des autres groupes.
Quant aux négociateurs du Hamas, ils sont au Qatar, bien loin de la bande de Gaza, avec laquelle les communications reste difficile.
Anthony Blinken, le chef de la diplomatie américaine, est en Israël. Il va rencontrer Benjamin Netanyahou et se rendre en Cisjordanie. La France exhorte Israël à mettre un terme aux violences des colons en Cisjordanie.
Éric Dupond-Moretti reste ministre de la Justice.
Relaxé et maintenu en poste, le garde des Sceaux était jugé pour prise illégale d'intérêt pour des enquêtes administratives menées en tant que ministre contre des magistrats qui avaient été ses adversaires quand il était avocat. La Cour de justice de la République reconnaît le conflit d'intérêts, mais pas la prise illégale d'intérêts. Expliquez-nous la différence, Lauriane Toulmont.
Il faut revenir au cœur du délit pour comprendre la décision de la Cour de justice de la République. La prise illégale d'intérêt contient deux éléments. D'abord, l'élément matériel, les faits. Dans le cas d'Éric Dupond-Moretti, il a engagé en tant que ministre de la Justice des poursuites disciplinaires contre des magistrats, les mêmes auxquels il s'était opposé en tant qu'avocat, allant même jusqu'à porter plainte. Pour la Cour, il y a là un conflit d'intérêts manifeste. Mais pour constituer le délit, il faut un deuxième élément, l'intention. Le garde des Sceaux était-il à la recherche d'un gain, d'un intérêt personnel ? Non, dit la Cour, Éric Dupond-Moretti s'est contenté de suivre les conseils de son administration. C'était d'ailleurs, depuis le début, la défense du ministre de la Justice. Selon une source proche du dossier, le parquet étudie en détail les arguments de la Cour pour décider si un pourvoi sera formé. Le ministère public a jusqu'à mardi pour se pourvoir en cassation.
Le gouvernement n'en a pas fini avec la justice. 10 mois de prison avec sursis requis contre Olivier Dussopt, le ministre du Travail jugé pour favoritisme dans l'attribution de marchés quand il était député maire d'Annonay en Ardèche en 2009. La population française vieillit dans les années à venir. Il y aura de plus en plus de personnes âgées dépendantes qui auront besoin d'auxiliaires de vie. Pourtant, le secteur n'arrive pas à recruter. 25 000 offres non pourvues. Reportage de Rémi Fister au Salon des services à la personne, porte de Versailles à Paris.
Devant de nombreux stands, une pancarte. Ici, on recrute. Pourtant, difficile d'attirer de nouveaux profils, se désole Virginie, conseillère Pôle emploi, car le métier d'auxiliaire de vie est très éprouvant.
Si vous avez une personne qui est fortement handicapée et autre, faut pouvoir la lever, faut pouvoir la mettre au bassin. Puis, il faut être disponible le week-end aussi, le soir. C'est un métier très dur, c'est très prenant et c'est mal payé.
Faute de pouvoir augmenter les salaires, des SMIC souvent à mi-temps, certains employeurs repensent donc l'organisation des plannings. Mélanie gère une structure dans les Hauts-de-Seine.
Par exemple, si une auxiliaire de vie ne veut pas travailler un mercredi, elle a le droit. Ou si elle veut travailler que 2 heures par jour, elle a le droit aussi.
Son CV sous le bras, Sophia, auxiliaire de vie depuis 2 ans, arpente les allées du salon. Toute jeune maman, elle cherche désormais l'employeur le plus avantageux.
C'est de rester le week-end chez moi. Et dès qu'on met nos CV, après 3 heures maximum, on a le premier appel. Voilà.
Depuis quelques années, elles ont le pouvoir.
Stéphanie Meyer, recruteuse pour O2, un groupe spécialisé dans l'aide à la personne.
Il faut absolument que ça évolue au niveau salaire et le cadre de travail. Alors nous, on essaye de leur donner des voitures de société aussi. Et notre but, c'est que les personnes âgées restent le plus longtemps chez elles. C'est un métier qui devient de plus en plus essentiel.
D'après l'Institut des politiques publiques, pour faire face au vieillissement de la population, les effectifs du secteur devraient augmenter de 40% en 20 ans.
Vous avez prévu de partir pour les vacances de Noël, vous pourrez le faire, oui,
merci.
En train. Il n'y aura pas de grève pour les fêtes, les syndicats l'ont annoncé hier.
La France devrait accueillir les Jeux Olympiques d'hiver 2030.
On garde le conditionnel parce que la décision officielle sera annoncée en juillet, mais c'est comme si c'était fait, les Alpes françaises sont les seules candidates encore en lice. Le CIO a retoqué les candidatures de la Suède et de la Suisse. Hiver, été, pas de jaloux, puisque l'été prochain, ce sont les JO de Paris 2024. On commence un peu plus à voir à quoi vont ressembler les mesures de sécurité. En tout cas, il y a ce qu'on sait, Charles Ducrot, et ce qui reste à savoir.
Ce sera hardcore de rouler dans Paris, disait le ministre des Transports il y a une semaine. Le préfet de police de Paris préfère la formule « ce ne sera pas facile ». Alors on va communiquer pour mieux s'organiser, à commencer par les zones précises de restriction autour des événements. On peut les consulter sur le site internet de la préfecture. En bleu, les zones où il sera possible de rouler avec autorisation. Et en rouge, voitures et motos interdits. Mais jamais les piétons, ni les cyclistes. Pour permettre aux commerçants, aux artisans de pouvoir travailler, évidemment aux riverains de passer, il y aura des dérogations, sans doute beaucoup, précise Laurent Nunez. Une concertation doit encore être menée pour les définir avec précision, quitte à faire du cas par cas, ajoute le préfet. Autre point, ces jeux vont nécessiter une mise en place de longue haleine. On verra apparaître les premiers périmètres dès le mois d'avril, de manière progressive. Enfin, une plateforme numérique pour faciliter les contrôles et générer une attestation devrait être disponible dès le printemps prochain.
Alors, il y a la sécurité, mais le sport aussi. 400 000 nouveaux billets pour ces jeux sont mis en vente à 10h ce matin sur la plateforme Paris 2024.
Vous revenez à 8h, Virginie, pour le journal. À suivre, Étienne Lefebvre qui nous explique pourquoi la SNCF coûte de plus en plus cher à l'État, mais donc aux contribuables. Radio Classique.